Chapitre 11. Ptolémée prie pour le roi. Lorsque Ptolémée, au milieu de l'après-midi, rentra chez lui, son premier commis vint aussitôt l'avertir que deux gentilshommes de campagne l'attendaient dans l'antichambre de son cabinet. « Ils ont l'air fort courroucés. Ils sont là depuis none, sans avoir rien mangé, et disent qu'ils ne bougeront point qu'ils ne vous aient vu. »« Oui, je suis au courant, » répondit Ptolémée. « Fermez les portes et appelez dans mon cabinet tous les gens de la maison, commis, valets, palefreniers et servantes, et qu'on se hâte, tous en haut. » Puis il monta lentement l'escalier, prenant un pas de vieillard accablé par le malheur. Il s'arrêta un moment sur le palier, écoutant le branle-bas que ses ordres provoquaient à travers la banque. Il attendit que les premières têtes fussent apparues au bas des marches, et enfin pénétra dans son antichambre en se tenant le front. Les frères Cressay se levèrent et Jean, le barbu, marchant à lui, s'écria. « Messer Ptolémée, nous sommes... » Ptolémée l'arrêta d'un geste du bras. « Oui, je sais, » dit-il d'une voix gémissante. « Je sais qui vous êtes et je sais aussi ce que vous venez me dire. Mais ceci n'est rien auprès de ce qui nous afflige. » Comme l'autre voulait poursuivre, il se retourna vers la porte et dit au personnel qui commençait à se montrer. « Entrez, mes amis. » « Entrez tous dans mon cabinet. Venez entendre l'affreuse nouvelle de la bouche de votre maître. Allons, entrez, mes petits. » La pièce fut bientôt pleine. Les frères Cressay, s'ils avaient voulu tenter le moindre mouvement, eussent été en un instant désarmés. « Mais enfin, messieurs, que cela signifie-t-il » demanda Pierre, que l'impatience gagnait. « un instant, » répondit Ptolémée. « Tout le monde doit savoir. » Les frères Cressay, subitement inquiets, pensèrent que le banquier allait dévoiler publiquement leur déshonneur. C'était plus qu'ils n'en souhaitaient. « Tout le monde est là ?» dit Ptolémée. « Alors, mes amis, écoutez-moi. » Et puis rien ne vint. Il y eut un long silence. Ptolémée s'était caché le visage dans les mains. Quand il se découvrit la face, son seul œil ouvert était rempli de larmes. « Mes petits amis, mes enfants, » prononça-t-il enfin, « ces choses trop affreuses. Notre roi, oui, notre bien-aimé roi vient de trépasser. » Sa voix s'étranglait dans sa gorge. Il se frappait la poitrine comme s'il était responsable de la mort du souverain. Il profita de l'effet de surprise pour commander. « Alors, à genoux, tous, et prions pour son âme. » Lui-même, lourdement, se laissa choir au sol, et tout son personnel l'imita. « Voyons, messire, à genoux » dit-il d'un ton de reproche au frère Cressay, qui, saisi par la nouvelle et complètement ahuri devant ce spectacle, était seul demeuré debout. « In nomine Patris !» commença Ptolémée. Alors éclata un concert de lamentations stridentes. C'étaient les servantes italiennes de la maison qui se mettaient à former un chœur de pleureuses selon la tradition de leur pays.
« Un uomo così buono, un signore tanto generoso, le ciel l'a pris !»
hurlait la cuisinière.
« Ahimè, ahimè, hélas, si bon, si généreux !»
reprenaient les filles d'office et de buanderie. La jupe de dessus retroussée pour s'en couvrir la tête, elles se balançaient de gauche à droite, tendant vers le plafond leurs mains jointes.
« Il était notre père à tous. Era il protettore degli umili. Il nostro protettore, nous l'avons perdu. Hélas, ahimè, ahimè !»
Ptolémée s'était relevé et circulait à travers son personnel. « Allez, priez, priez bien. Oui, il était pur, oui, il était saint. Des pécheurs, voilà ce que nous sommes, d'incurables pécheurs. Priez aussi, jeunes gens, » disait-il en appuyant sur la tête des frères Cressay. « Vous aussi, la mort vous agrippera. Repentez-vous, repentez-vous !» La représentation dura un gros quart d'heure, puis Ptolémée ordonna. « Fermez les portes, fermez les guichets. C'est jour de deuil, on ne fera point commerce ce soir. » Les serviteurs sortirent, reniflant leurs larmes. Lorsque le premier commis passa près de lui, Ptolémée lui glissa. Surtout, ne payez rien. L'or aura peut-être changé de cours demain. » Les femmes hurlaient encore en descendant l'escalier.
« Il était le bienfaiteur du peuple. Jamais, jamais plus nous n'aurons un roi aussi bon. Aïmé !»
Ptolomée laissa retomber la tenture qui fermait l'entrée de son cabinet. « Et voilà, » dit-il, « et voilà. Ainsi passent les gloires du monde. » Les deux Crécet, Ahuri et Maté, se taisaient. Leur drame personnel se trouvait noyé dans le malheur du royaume. En outre, ils éprouvaient la fatigue d'une nuit de chevauchée, et dans quel équipage ! Leur arrivée à Paris, au petit matin, montée à deux sur leur bidet cornard et habillée des vieux vêtements qu'ils usaient au champ, avait soulevé le rire sur leur passage. Escortés d'une escouade de gamins criards, ils s'étaient perdus dans le dédale de la cité. Ils se sentaient le ventre creux, et leur assurance, sinon leur ressentiment, avait sérieusement faibli devant la somptuosité de la demeure Ptolomée. Cette richesse partout répandue, ce personnel nombreux, bien vêtu et bien gras, ces tapisseries, ces meubles sculptés, ces émaux, ces ivoires. Au fond, pensait-il chacun à part soi et sans oser le confier à l'autre, au fond, nous avons peut-être eu tort de nous montrer si chatouilleux sur le sang. Une fortune comme celle-là vaut bien un rang de seigneur. Allons, mes bons amis, dit Ptolomée avec une familiarité qu'autorisait maintenant leur prière en commun. Venons-en à cette pénible affaire, puisqu'il faut vivre après tout, et que le monde continue malgré ceux qui s'en vont. Vous voulez me parler de mon neveu, bien sûr. Le bandit, le scélérat, m'avoir fait cela à moi, qu'il est comblé de bonté. Le misérable garçon sans vergogne, me fallait-il cette douleur de plus aujourd'hui ? Je sais tout. Il m'a fait parvenir un message ce matin. Vous voyez un homme bien éprouvé. » Il se tenait devant eux, un peu voûté, les yeux à terre, dans l'attitude du pire accablement. « Et lâche avec cela, » reprit-il. « Lâche ! J'ai la honte de l'avouer, mes jeunes sires. Il n'a pas osé affronter ma colère. Il est parti pour Sienne d'un seul trait. Il doit être loin maintenant. Alors, mes amis, qu'allons-nous faire ?» Il avait l'air de s'en remettre à eux, presque de leur demander conseil. Les deux frères le regardaient, se regardaient. Rien ne se passait comme ils l'avaient imaginé. Ptolomée les observait à travers sa paupière presque close. « C'est bon, se disait-il. Maintenant que je les ai en main, ils ne sont plus dangereux. Il ne s'agit que de trouver le moyen de les renvoyer chez eux sans rien leur avoir donné. » Il se redressa brusquement. « Mais je le déshérite, vous entendez ? Je le déshérite ! Tu n'auras pas un sou de moi, petit misérable » cria-t-il en agitant la main dans la vague direction de Sienne. « Rien, jamais ! Je laisserai tout aux pauvres et au couvent, et s'il me retombe sous la main, je le livre à la justice du roi. Hélas, hélas, le roi est mort !» Les deux autres se disposaient presque à le consoler. Ptolomée les jugea assez préparés pour qu'il pût leur prêcher la raison. Tous leurs reproches, tous leurs griefs, il les acceptait, il les approuvait. Mieux même, il les devançait. Mais maintenant, que faire ? À quoi servirait un procès, bien coûteux pour des gens sans fortune, alors que le coupable était hors d'atteinte et aurait, avant 6 jours, passé les frontières ? Était-ce cela qui réhabiliterait leur sœur ? Le scandale ne nuirait qu'à eux-mêmes. Ptolomée allait se dévouer et s'efforcer de réparer le mal commis. Il avait de hautes et puissantes relations. Il était ami de Monseigneur de Valois, de Monseigneur d'Artois, de Messire de Bouville. On trouverait à Marie un lieu où elle mettrait au jour son péché dans le plus grand secret, et l'on verrait ensuite à lui donner un état. Un couvent, pour un temps, pourrait peut-être abriter son repentir. Qu'on fît confiance à Ptolomée. N'avait-il pas prouvé aux Crécet qu'il était homme de cœur en faisant reporter cette créance de 300 livres qu'il avait sur eux ? « Si j'avais voulu, votre château serait à moi depuis 2 ans. L'ai-je voulu ? Non. Vous voyez bien. » Les deux frères, déjà fort ébranlés, comprirent aisément la menace que, d'un ton si paterne, le banquier faisait peser sur eux. « Entendez-moi, je ne vous réclame rien, » ajouta-t-il. Mais dans une affaire de justice, forcément, Il serait obligé de faire état de ses comptes, et les juges pourraient s'étonner que les Cressets eussent accepté tant de dons de la part de Guccio. Allons. Ils étaient de braves jeunes gens, ils allaient se diriger sur une tranquille auberge pour y passer la nuit après s'être bien restaurés et sans se soucier de régler la dépense. Ils attendraient là que Ptolomei se soit employé pour eux. Ils pensaient dès le lendemain leur proposer des mesures apaisantes pour leur honneur. Avant tout, éviter le scandale. Pierre et Jean de Cressets se rendirent à ses raisons, et même en prenant congé, lui étreignirent les mains avec quelque effusion. Après leur départ, Ptolomei se laissa tomber sur une chaise. Il était là et soufflait dans ses grosses joues sombres. « Et maintenant, pourvu que le roi meure, » se dit-il. Car lorsqu'il avait quitté Vincennes, Louis X respirait encore, mais nul n'estimait qu'il eût beaucoup d'heures devant lui.